La première, 16h-17h30, entrée sans frapper.
Il est 16h30, c'est entré sans frapper. La deuxième partie, il y a Evianne, il y a Marie-Agnès Baupin. Dans ce studio, nous avons Gorian Delpature. Gorian, avec vous, c'est littérature étrangère.
Oui, aujourd'hui, nous allons aller en Russie, dans un petit village totalement corrompu. C'est le décor du roman d'Alissa Gagnéva, Sentiments offensés, corruption, mort d'un ministre, histoire d'amour et de sexe et de pouvoir. Un roman passionnant.
Eh bien, écoutez, c'est dans quelques instants. Happy Monday, c'est avec Amélie de Borédon. L'actualité musicale, ce sera entre 17h et 17h30 dans Entrée sans frapper. Après le 17h d'Hélène. Et puis nous avons une invitée aujourd'hui. Bonjour Karine Thuil.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Vous êtes notre invitée pour votre nouveau roman paru chez Gallimard, que nous avons beaucoup aimé avec Gorian. Il s'appelle La guerre par d'autres moyens. On y vient dans quelques instants.
La première, 16h-17h30, entrée sans frapper, Jérôme Collin.
J'ai deux fois deux places à vous offrir pour le spectacle Bête d'orage au théâtre Le Manège à Mons le samedi 29 mars à 19h dans le cadre du festival Guerrière. Vous voulez être nos invités pour le samedi 29 mars, 19h dans le cadre du festival Guerrière Bête d'orage au théâtre Le Manège à Mons. C'est très simple, vous nous envoyez un SMS au 6031 code ORAGE, 6031 code ORAGE, O-R-A-G-E, suivi de vos noms, prénoms et adresses mail.
Entrée sans frapper sur la première.
Je suis enchanté de vous recevoir, Karine Thuil. Bienvenue dans ce studio.
Merci, je suis ravie d'être ici.
Alors, on vous doit l'invention de nos vies, l'insouciance, les choses humaines, la décision. Et puis votre dernier roman, paru chez Gallimard, s'intitule « La guerre par d'autres moyens ». On l'a lu, Gorian. Vous nous racontez pour qu'on comprenne toutes et tous de quoi on va parler.
Oui, eh bien c'est l'histoire essentiellement de Dan Lehmann. Et Dan Lehmann, c'est l'ancien président de la République française. Il a 64 ans, c'était un président de gauche sociale, juif, mais il a perdu aux élections. Il a été remplacé par une présidente ultralibérale. Et depuis, rien ne va plus pour lui. Il vient de publier une biographie romancée de Marx qui passe mal auprès des critiques à cause d'une scène de fellation un peu étonnante. Et puis surtout, dans sa vie personnelle, eh bien ça ne va pas du tout. Il a une jeune femme, une actrice allemande qui est 20 ans plus jeune que lui, avec laquelle il a une petite fille qui est sourde-muette et cette femme actrice avec qui il s'entend un peu moins bien, ça se passe moins bien entre eux, eh bien, elle va tourner dans un film qui est adapté d'un roman de la première femme du président parce que sa première femme avec qui il a eu des enfants bien avant est autrice, eh bien son roman va être adapté au cinéma et l'actrice principale va être la nouvelle femme du président. Vous me suivez, c'est un peu compliqué. Et là-dessus, pour se remettre, Dan, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il se plonge dans l'alcool.
Ah oui, il picole et ça va évidemment absolument rien n'arranger. Karine, pour que nos auditrices et nos auditeurs puissent comprendre de quoi on veut parler, je voulais juste lire le début du roman, parce que, évidemment, vous avez un style. Le premier réflexe de Lehmann au réveil, c'était de vérifier le classement de son dernier livre dans la liste des meilleures ventes. Après seulement, il avalait un anxiolytique, généralement un Xanax, mais il tolérait bien aussi le Lexomil. Quand, pris d'une insomnie, il se levait pour boire, il ne résistait pas à la tentation de faire défiler sous ses yeux, encore ensommeillés, les titres les plus vendeurs. Les premiers, c'était toujours de la merde. Des livres pour bonnes femmes au titre débile, des coups marketing orchestrés par des éditeurs aux abois. Le bonheur ferme à 14h. Vieillir, c'est dans la tête. Ou ta deuxième vie commence à 50 ans. Le record de vente avait été atteint avec Ma vie sans sexe, manifeste écrit par une jolie journaliste de 30 ans qui était restée 6 mois entre la première et la deuxième place à l'ère du libéralisme sexuel. L'abstinence était devenue à la mode. Lehmann l'avait lu avec dégoût. Une vie sans sexe, il ne croyait pas cela possible. Ce n'était pas seulement atroce mais dangereux. Toute vie humaine se déployait entre deux espaces, la naissance et la mort. Entre les deux, seul le sexe offrait une alternative crédible au suicide. Waouh, j'adore cette première page. Alors, début d'un roman, c'est toujours particulier. Il faut y dire des choses, évidemment, ne rien raconter. C'était quoi l'objectif de cette première page, de cette introduction à votre roman?
Ce qui est dingue, c'est que cette première phrase, cette première page est née d'un surgissement. J'ai écrit les 5 premières pages à peu près du livre dans un vrai surgissement. J'étais pas du tout partie pour écrire sur ce sujet-là. Je pensais écrire sur la justice. J'avais fait 4 mois d'enquête. Et puis à cette période, par les hasards de la vie, j'ai rencontré d'anciens présidents de la République et d'autres personnalités du monde politique. Et j'ai écrit ces pages de manière très mystérieuse.
Alors, on va parler de pouvoir. Dans quel cadre vous avez rencontré des personnalités politiques ces dernières années, Karine Thuil?
Dans au cours d'une émission télévisée, et puis après, dans des cadres plus personnels. Ouais. Hein, voilà.
Et en les côtoyant, pourquoi vous vous êtes dit qu'il y a un sujet chez ces hommes et femmes, probablement, de pouvoir ?
Ben parce que je me suis demandé qu'est-ce qui se passait une fois qu'on avait plus pouvoir. On parle tout le temps des hommes politiques au moment où ils exercent ce pouvoir. Mais après, le vide existentiel, l'ennui, le vertige. Or, je remarquais aussi qu'ils écrivaient tous des livres après avoir quitté le pouvoir. Oui. Mais ces livres, c'était une façon pour eux de revenir sur la scène médiatique. Il n'y avait rien vraiment de profond, d'intime, de sensible dans ces livres. Et je me suis dit, voilà, le livre qu'il faut écrire, c'est le livre qu'ils n'écriront jamais.
Ah ouais, un livre qu'ils n'écriront jamais, parce qu'ils ne diront jamais la vérité sur ce que c'est le pouvoir. Et en vous lisant, évidemment, et on le voit nous aussi, hein, ici, on travaille à RTB, on les voit tous les jours, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est quelque chose dont on ne se remet pas, parce que la vie n'a plus de sens après le pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a, Karine Thuil, d'aussi dingue dans l'exercice du pouvoir, ou simplement le pouvoir, pour qu'on ne s'en remette pas, pour qu'on puisse penser, comme votre héros, hein, Dan, qu'il n'y a pas de vie après?
D'abord, c'est aussi c'est l'hubris, c'est le fait d'être au centre des choses, en plus à la plus haute hiérarchie, la magistrature suprême. Donc tous les gens autour de vous changent. Enfin, c'est un fluide, le pouvoir, c'est une drogue. Tous le disent quand même. Donc déjà, il y a ça. On est attaché à cela. Et puis il y a aussi toute la part d'engagement politique. Donc les meetings, par exemple, devant des dizaines ou des centaines de milliers de personnes, c'est complètement grisant. C'est comme des rockstars. Ouais. Et quand vous arrêtez ça, c'est évident qu'il y a une descente, mais on n'en parle pas de cette descente. Par quelle drogue on va compenser cette drogue-là?
Alors évidemment, ça c'est très beau, hein, le pouvoir, ils sont très très puissants là-bas dessus. Oui, certes, ils sont très puissants, mais en fait ils ne peuvent pas changer la société dans laquelle on vit. Et vous expliquez très bien ça. C'est qu'en fait, ben, c'est pas une page blanche, un mandat. Il écrit, hein, parce qu'en fait il dicte pour faire un espèce de journal. Pendant 5 ans, j'ai servi l'intérêt général, seul temps pendant lequel il a été président de la République. Mais j'ai assez vite découvert à la tête de l'État l'archaïsme et le conservatisme des structures sociales, la force de l'inertie. On ne bouscule pas si aisément ce qui est acquis en politique, on crée toujours à partir de bases existantes. Un mandat n'est pas une page blanche sur laquelle le nouvel élu inscrit sa vision sans contestation ni opposition. C'est au mieux un ajustement, une correction. Pourquoi on donne autant d'importance à ces gens qui finalement ne peuvent pas changer notre quotidien?
Parce qu'on espère toujours qu'ils vont changer notre quotidien. Pour des gens, la politique peut changer et doit changer leur vie. Oui. Donc on attend énormément. Et ça aussi, c'est ce qui est très troublant, et tous le disent, hein, c'est qu'arriver au pouvoir, il y a des limitations, il y a des réserves, il y a des conflits, il y a l'impossibilité parfois de changer la société, et ça rend quand même amer quand on quitte le pouvoir.
Ils le sont, les gens que vous avez rencontrés, ils sont amers de leur exercice du pouvoir?
Souvent, mais encore une fois, ils disent pas frontalement les choses. C'est très difficile de saisir le réel intime de ces gens. Donc, il faut observer, il faut essayer de capturer un moment. Mais il y a comme une armure, en fait, qui se forme, parce que c'est aussi des gens qui sont très attaqués. On le voit dans le roman, il est sans cesse attaqué, sans cesse critiqué, sans cesse lynché. Et c'est le cas quand même de tous les hommes et les femmes politiques.
Ouais, et il l'a bien mérité, parce que lui peut exercer aussi une violence en retour. Hein.
Bien sûr.
Florian.
Oui, et on parle du destin de ces hommes de pouvoir qui ne l'ont plus. Et souvent, ils sont très fragilisés par cette absence du pouvoir. Et chez vous, Dan Lehmann, lui, plonge dans l'alcool. Vous parliez tout à l'heure du fait que vous aviez rencontré beaucoup d'anciens présidents, en tout cas d'hommes politiques, qui ont perdu le pouvoir. Est-ce que ça veut dire que dans ceux que vous avez rencontrés, il y avait beaucoup d'alcooliques aussi? Ou ça, vous l'avez imaginé pour votre personnage?
J'ai complètement imaginé, parce que, par exemple, Nicolas Sarkozy dit clairement qu'il ne boit pas une goutte d'alcool. Ouais. Hollande, je ne crois pas qu'il boive beaucoup.
Après, il dit qu'il n'a rien fait aussi. Hein.
Voilà. Et j'avais envie d'intégrer cette vulnérabilité-là. Parce qu'il me semble aussi qu'elle est une vulnérabilité contemporaine dont on parle peu, le recours à des addictions et notamment à l'alcool pour supporter la difficulté de vivre ou le vertige de sa vie.
Et puis, ne dit-on pas l'ivresse du pouvoir. Hein,
aussi.
Manière, vous posez une question terrible. Le monde était devenu froid, individualiste, brutal. Comment pouvait-on y survivre sans être défoncé? Point d'interrogation. Excellente question, je trouve. Alors, c'est un monde dans lequel il est effectivement très difficile de ne pas se compromettre, parce que on va faire des petits arrangements en permanence, vu qu'évidemment, on ne travaille pas sur une page blanche. Et en vous lisant, je me suis posé une question un peu idiote, Karine Thuil, j'espère que vous avez une réponse. Je me suis dit, est-ce que quand on accède à des positions aussi dingues que, président de la République, ou disons, chez nous, Premier ministre, puisque nous n'avons pas de président, nous avons un roi, nous, madame. Est-ce qu'il est plus facile de ne pas se compromettre quand on est un homme de droite, ou une femme de droite, plutôt qu'un homme de gauche, et que l'exercice du pouvoir va demander moins de compromission à quelqu'un de droite, voire d'extrême droite, c'est la mode, soit à quelqu'un de gauche?
C'est vrai qu'on exige beaucoup des gens de gauche parce que c'est des idéaux de justice sociale, de probité, d'intégrité, d'égalité, de fraternité qui sont finalement parfois difficiles à réaliser, en particulier quand on est confronté au réel. Donc évidemment, peut-être que le contraste entre vos affirmations et la réalité de ce que vous produisez quand vous êtes de gauche, et pas seulement d'ailleurs hommes et femmes politiques, puisque dans le livre, il y a aussi un personnage de cinéaste, Romain Nisant, très engagé à gauche, qui fait des films sociaux et qui agit, qui n'agit pas du tout en conformité avec ses valeurs.
Corian.
Oui, j'aimerais juste revenir sur le titre du roman, oui. La guerre par d'autres moyens. C'est une citation de Michel Foucault qui a paraphrasé une autre citation et qui disait dans ses cours durant les années 70 « La politique, c'est la guerre continuée par d'autres moyens ». Vous pensez vraiment que la politique, c'est la guerre ?
Oui. Complètement. C'est vraiment un lieu de... D'abord, c'est la guerre des idées, c'est la lutte intellectuelle pour imposer ses idées, mais c'est aussi une guerre pour remporter le pouvoir. Et ça, c'est aussi fascinant, c'est de voir à quel point c'est quand même, des guerriers. On n'arrive pas à ce stade-là, à la magistrature suprême, par hasard. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu décrire un homme qui est à la fois cynique, cinglant, féroce, mais aussi attachant, vulnérable. Mais il y a quand même cette force, cette puissance, cette férocité des parce que sont des fauves quand même, comme des lions. D'ailleurs, il le dit, il est très gentil, puis d'un coup de patte, il peut te couper la tête.
Oui, c'est toujours intéressant quand on dit « Oh, Obama, il a l'air très sympathique ». Probablement pas, non. Et à ce niveau-là, de la société, non, je pense qu'il faut pas être devant lui dans le noir. Ils ne peuvent être que des animaux, parce qu'on n'arrive pas aussi haut, évidemment, quand on n'a pas un instinct de prédation, très probablement, parce qu'on a beaucoup qui veulent être à cette place-là, et c'est vous qui arrivez, il y a une raison. De Gaulle disait une phrase absolument formidable, il n'y a que les arrivistes qui arrivent. Vous la citez dans votre livre, je trouve que c'est une phrase absolument merveilleuse, qui remet un peu les choses à leur place. C'est la violence. Le monde politique est un monde de violence. Le public est violent envers les politiques. Il suffit de lire des commentaires dans la presse aujourd'hui, où dès qu'on prend des auditeurs sur antenne pour parler aux personnalités politiques, il y a une espèce de truc très étrange qui se met en place, où on peut cracher sur les gens comme ça. Évidemment, de l'autre côté, la violence est tout aussi réelle. Et dans votre Lehmann, il se fait insulter, sale juif. Se fait insulter en permanence sur son programme, sur ses résultats, etc. Mais par ailleurs, c'est un sale type, parce que lui exerce aussi cette violence dans son cabinet quand il était président, et encore après d'ailleurs sur tout le monde.
Oui, d'ailleurs, il y a une sorte d'ironie parce qu'il critique alors que lui-même a été, quand il a été à ces postes-là, il a été d'une dureté, d'une férocité incroyable.
Ils ne peuvent être que violents.
Oui, parce que je crois qu'on prend tellement de coups que si on ne s'endurcit pas, donc si on ne devient pas une forme d'invulnérabilité, on ne tient pas à ces postes-là. Et évidemment, on fabrique aussi de la brutalité, de la violence, parce que aussi c'est inhérent au combat politique lui-même, à l'échange des idées, au fait qu'à tout moment, quelqu'un peut s'en prendre à vous, même dans la rue, même dans un débat. Ouais. Moi, j'ai rien inventé dans le livre. Il y a un moment, il y a une émission radio où il arrive dans une émission politique et il y a une auditrice qui lui dit « Mais de toute façon, votre bilan est nul. » Et pareil, quand il fait une émission télé. Or, c'est la réalité du vécu d'un homme ou d'une femme politique.
Ouais. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'absolument inconscient dans la démocratie à nous obliger à des gens qui, s'ils sont là, sont des gens qui ont évidemment une forme de violence, parce que le monde dans lequel ils vont évoluer, qu'ils ont choisi, on le rappelle, est un monde violent. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu étrange dans cela, Karine Thuil? Parce que, a priori, ce serait beaucoup mieux de pouvoir être dirigé par des gens doux, empathiques, qui n'ont pas perdu une forme d'humanité parce qu'ils sont en guerre permanente.
Mais moi, je pense qu'ils le sont au départ, qu'il y a une intégrité et une empathie de départ et que ces valeurs-là sont complètement dévoyées par la confrontation avec le réel qui fait que si vous ne vous endurcissez pas, vous mourrez. Mm-hmm. Et il le dit d'ailleurs, Lehmann. Ah ouais. Et c'est la raison pour laquelle j'avais envie de voir au-delà des apparences parce que dans sa sphère intime, dans sa sphère familiale, c'est un bon père, c'est un homme attentionné, affectueux, attachant. Et là, j'ai beaucoup travaillé les nuances parce qu'on peut être à la fois cet homme politique féroce, dur, brutal et ce père extrêmement tendre.
Oui, tout à fait. Hein. C'est ce qui fait évidemment de lui un personnage attachant dans le livre. On va voir l'état des routes et puis on revient vers vous, Karine Thuil, et ce dernier roman paru chez Gallimard, La guerre par d'autres moyens.
La première,
Mobile Info.
Conrad.
Oui, Jérôme, et on va d'abord sur le ring, où on a des ralentissements en extérieur, sur le ring de Bruxelles, entre Beaulieu et Saint-Étienne et Grand-Bigard. Ajoutez 25 minutes à votre temps de parcours. En province de Hainaut, des ralentissements aussi du côté de Charleroi, sur la N5, entre Gerpine et Couillet vers Charleroi, dizaines de minutes supplémentaires. Et alors, je vous redis un mot aussi de cet accident qui est toujours en cours à Beaufailly, sur la E25, Liège-Bastogne-Neuchâteau. Nous avons une voiture sur le toit, la bande de droite est obstruée. Et enfin, un mot sur la grève nationale du 31 mars, puisqu'on apprend qu'aucun vol ne partira de Brussels Airport. Donc il convient de s'adresser à sa compagnie si vous êtes dans le cas. Et même chose également si vous devez arriver à Bruxelles ce jour-là.
Avant, pour acheter une voiture, on faisait le tour de tous les garages. Aujourd'hui, il y a un Soco près de chez vous, partout en Wallonie et même à Bruxelles. Soco. L'occasion par définition.
La première. 16h-17h30. Entrée sans frapper.
Karine Thuil est notre invitée aujourd'hui dans Entrée sans frapper à l'occasion de la parution de La guerre par d'autres moyens. Votre dernier roman chez Gallimard, vous nous plongez dans les coulisses du pouvoir. Dan Lehmann, il a été président, il ne l'est plus et maintenant va arriver. Et il va lutter pour ne pas que ça arrive. Le moment le plus compliqué de sa vie, il va tomber dans l'oubli. Gorian.
Oui, on a parlé du pouvoir et de l'absence de pouvoir une fois qu'on ne l'a plus. Ça, c'est l'histoire de Dan Lehmann. Mais Dan n'est qu'un des personnages du roman. Il y a quand même beaucoup de personnages et des personnages féminins majeurs. Les deux femmes de Dan Lehmann, une de ses filles et puis une jeune actrice d'une trentaine d'années. Parce qu'on a parlé du pouvoir politique, le pouvoir féroce des hommes. Mais c'est aussi un roman sur le pouvoir que les hommes exercent sur les femmes. C'est ça aussi le thème de votre roman, Karine Thuil.
Oui, à travers des portraits de femmes, donc effectivement la première femme de Dan Lehmann, qui a 58 ans, qu'il a quitté pour une femme plus jeune. Cette actrice, Hilda Müller, qui est sa nouvelle femme, qui a sacrifié aussi sa carrière quand il était à l'Élysée. Et puis sa fille, qui elle incarne la relève un peu, elle a 24 ans, elle est de tous les combats féministes. Donc c'est à la fois un livre qui parle du pouvoir des hommes sur les femmes, mais de la façon dont les femmes aujourd'hui redéfinissent les dynamiques de pouvoir et reprennent aussi une partie du pouvoir. Donc il y a vraiment un jeu d'équilibre des forces en présence aujourd'hui.
Oui, parce qu'elle monte, Hilda, elle retourne vers sa carrière alors que lui évidemment est en train de sombrer. Ça m'a fait penser à une célèbre phrase de Woody Allen qui disait « Fais attention quand tu montes les échelons, sois très gentil avec les gens parce que tu croiseras les mêmes quand tu redescendras. » Et c'est une phrase tout à fait vraie et qui fait que vous devez respecter les gens évidemment en tout temps. Bon, moi je fais de la radio, donc il y a une scène qui m'a beaucoup intéressé, c'est une scène de matinale à France Inter où on voit une journaliste qui ne s'appelle pas Léa Salamé d'ailleurs, vous lui avez donné un autre nom pour les procès, qui reçoit Dan Lehmann parce qu'effectivement il sort ce Monka et s'il est fini politiquement, médiatiquement, il a envie de continuer à exister, ce qui va lui éviter de tomber dans l'oubli. Et cette journaliste est rusée, mauvaise. Elle a peur qu'il y ait un auditeur qui quitte, même s'il y a un mot un peu plus compliqué que l'autre, etc. Vous la recadrez toujours. Est-ce que vous êtes une auditrice de radio effrayée, Karine Thuil? Parce que c'était ça, c'était l'impression que ça me donnait.
Effrayée. C'est sûr que quand on passe dans des médias, on a toujours peur de la question qui va déranger. Et j'imaginais un homme politique, parce que j'ai écouté beaucoup d'émissions d'hommes politiques, justement invités dans des émissions comme des matinales, donc des émissions nerveuses, très intenses, où ça va très 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 vite, et où parfois il y a des auditeurs qui interviennent pour vous lyncher. Et je me disais, comment on se retrouve dans cette position? Donc on sent que, parce que tout est vu à travers la perception de Lehmann, donc il dit d'ailleurs à un moment, la guerre garce avait toujours un couteau caché dans sa manche. Ouais. Parce qu'il s'attend à ce qu'elle sorte son couteau.
Il y a toujours une dernière question. Hein.
Voilà, c'est ça.
Mais moi, j'ai une question sur le sexe, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de sexe dans les pages de votre roman, Karine. Et ce n'est pas spécialement un sexe qui est très positif. Hein, ça y va, il y a beaucoup de descriptions, des mots comme fellation, sodomie. Mais on a l'impression que le sexe dans votre roman est une arme de destruction massive ou une arme de destruction intime. C'est ce que vous vouliez raconter, des rapports sexuels entre les hommes et les femmes dans cette génération post-MeToo.
Alors là, c'est dans un certain univers, sphère de pouvoir. C'est vrai qu'il y a notamment un réalisateur. Il me semble pas que Lehmann soit comme ça. Au contraire, il est plutôt plutôt tendre avec les femmes. Et puis lui, pour lui, la sexualité, c'est quelque chose qui va lier, au contraire, deux individus. Mais oui, dans le cas du réalisateur Romain Nisan, qui envisage le sexe comme un rapport de pouvoir, qui cherche à dominer les femmes avec lesquelles il couche. Là, évidemment, ça devient un instrument de contrôle, de coercition, mais c'est aussi la réalité des rapports, c'est-à-dire que la sexualité, ça peut être une ouverture vers quelque chose de très grand, mais ça peut aussi être quelque chose qui vous détruit et vous avilie, et notamment, je parle aussi beaucoup aujourd'hui des sites de rencontres, des endroits où les femmes, ou les hommes d'ailleurs, deviennent des produits de consommation courante, et le sexe, là aussi, quelque chose qui échappe à tout rapport amoureux.
Qu'est-ce qui vous a étonné sur le monde politique? On revient là un petit instant, parce que c'est quand même le centre du livre, même si le milieu littéraire et le milieu du cinéma, qui sont aussi des milieux de pouvoir, l'entreprise dans laquelle ici nous sommes aujourd'hui. Tout est milieu de pouvoir. La famille est un endroit de pouvoir, l'entreprise, le travail, tout, malheureusement. Mais dans la sphère politique, qu'est-ce qui vous a le plus étonné quand vous avez enquêté, quand vous avez questionné Karine Tuile?
C'est la passion pour la chose politique. Il y a vraiment un goût pour la politique et le désir initial, fondateur, d'agir pour le bien des gens. Après, qu'est-ce qui se passe dans leur carrière pour que ce bien ou ce désir ou ce militantisme soit à ce point dévoyé par la pratique, par l'exercice de la politique et du pouvoir? Mais quand même, tous les hommes politiques et les femmes que j'ai rencontrés vous parlent de cet engagement qui parfois vient même de l'enfance ou de l'éducation. C'est son cas à lui, c'est-à-dire que c'était une époque où la politique pouvait changer la vie des gens. Et aujourd'hui, on a tendance à avoir une vision, c'est aussi la faute des politiques eux-mêmes.
Vous croyez qu'elle ne peut plus changer nos vies ?
J'y crois moins. J'y crois moins parce qu'il me semble qu'on a aussi une classe politique d'un niveau beaucoup moins élevé que la classe politique des générations précédentes. Moi, j'ai relu beaucoup de mémoires d'hommes politiques et notamment Mitterrand, par exemple. Ces livres, ce sont les livres d'un vrai écrivain. C'était un intellectuel, quelqu'un qui pensait. Il y a aussi cela, malheureusement, il y a une évolution aussi de notre classe politique.
Dès la page 32, on a droit à la phrase la plus déprimante de votre roman, Karine Tuile. Je l'ai dit, c'est sur le couple. Vient un moment, au mi-temps de la vie commune d'un couple légitime, où l'on se fiche dans un confort agréable, une affection sécurisante. C'est doux, calme, rassurant. On se parle avec une tendresse un peu forcée, on se caresse encore un peu, on n'est plus l'un pour l'autre qu'un animal de compagnie. Paf ! C'est chaud, ça, hein ?
Oui, c'est Lehmann qui dit ça. Il faut voir le contexte. C'est quand même un homme qui regrette d'avoir quitté sa première femme pour une femme plus jeune avec laquelle il avait une sorte de dynamique sexuelle tout à fait nouvelle. Mais au bout de quelques années, pour lui, elle est devenue. Elle fait partie des meubles. Donc c'est quelqu'un d'assez féroce, d'assez cinglant. Il a le sens de la formule. Il y en a beaucoup comme ça dans le livre. C'était aussi pour moi une façon de définir de manière un peu âpre ce personnage, de montrer. Mais c'est de la provocation plus que réellement ce qu'il pense.
Mais pourquoi l'exercice du pouvoir grise à long terme et l'exercice de l'amour, non?
Ah bah c'est vous qui le dites, hein, ça peut être grisant à long terme.
Oui,
moi je trouve ça très grisant sur le long terme aussi.
Moi aussi. Mais visiblement c'est pas le cas de tout le monde.
Non, et puis en plus il y a quand même la réalité, c'est-à-dire que l'amour, la passion amoureuse, le désir, ça dure pas toute une vie. Enfin, c'est un autre lien, c'est ce que décrit d'ailleurs Lehmann quand il parle de sa première femme. Il dit qu'il l'aime, il est attaché à elle, il y a un attachement et un échange, une complicité intellectuelle au-delà de l'attraction physique. Et on a tendance à tout confondre. Or, le désir n'est pas évidemment le même au début d'une relation et au bout de 30 ans de mariage. Ça serait faux de le dire.
Tout à fait.
Oui, et en même temps, il y a une sorte de parallélisme dans les deux traits d'histoire de votre roman. Il y a évidemment l'histoire du pouvoir en politique, mais les histoires d'amour aussi, qui sont une forme de pouvoir et d'exercice du pouvoir, parce qu'au fur et à mesure de votre roman, les personnages prennent le pouvoir l'un sur l'autre dans les relations amoureuses. Vous voyez aussi l'amour comme une sorte de guerre, comme la politique, par moments ?
Mais c'est vrai que c'est un rapport de pouvoir, l'amour. Celui qui aime le plus a moins de pouvoir. Il est dépendant de l'autre, il attend le petit mot, il a peur de ne plus être aimé. Et s'il n'est plus aimé, il peut en mourir. Donc évidemment que c'est un rapport de pouvoir, l'amour. Dire l'inverse, c'est ne pas du tout connaître l'amour qui fragilise, qui rend très vulnérable. Le vrai grand amour rend très fragile.
Mmh. Le monde du cinéma en prend plein son grade, hein. Je peux expliquer pourquoi, parce qu'en fait elle va jouer dans un film de Nizan qui fait un film sur les violences faites aux femmes alors que lui-même pratique assez bien la chose, que ce soit moralement ou sexuellement d'ailleurs. Aujourd'hui s'ouvrait le procès, hein, de Gérard Depardieu à Paris par exemple. Est-ce que vous aviez besoin aussi en tant qu'autrice de faire une espèce de procès de ce milieu que vous devez connaître de près ou de loin, Karine Tuile ?
Là encore c'est venu totalement par hasard, comme l'immixtion du personnage de Dan Lehman dans mon livre, c'est-à-dire que par les hasards de l'existence, je travaillais sur l'adaptation d'un de mes romans, mm-hmm. et puis même depuis quelques années, j'ai souvent eu affaire au cinéma, et j'ai vu que c'était un univers dans lequel l'écrivain avait peu de place, n'était pas très considéré, c'est un univers sans généraliser où les enjeux économiques sont beaucoup plus importants que dans l'édition par exemple, et puis vous avez une sorte de focalisation sur quelques grands acteurs, quelques stars, et il y a toute une économie parallèle de gens qui sont dans l'ombre, des intermittents du spectacle, sans lesquels le cinéma ne pourrait pas vivre. Non. Or, on ne parle jamais d'eux. Donc, le livre leur rend aussi, d'une certaine façon, hommage et montre les contradictions de ceux qui sont le plus visibles médiatiquement.
Mmh. Il faut lire, hein, Karine Tuile, redécouvrez tous ces romans. Hein, c'est formidable. Je vous adore, Karine.
Ah ben, moi,
Karine Tuile, La guerre par d'autres moyens. C'est votre dernière parution chez Gallimard. On a aimé, hein, on n'est pas dessus.
On a adoré, même.
Donc, merci. Foncez. Le message est clair. Il y a Marie-Agnès. Dans quelques instants, nous aurons le droit à Hélène Maquet qui viendra présenter 117h. C'est Entrée sans frapper. Merci Karine d'avoir été notre invitée.
Merci à vous.
Entrée sans frapper sur